Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Quel avenir pour Taïwan? La question se pose en ce début d'année, à une semaine des élections présidentielles. L'ancienne Formose, une île isolée, non reconnue par les Nations Unies à l'instar de la quasi-totalité des pays du monde, alors qu'elle fut jusqu'en 1971 le seul État chinois légitime. L'île rebelle où se réfugièrent les forces de Chiang Kai-shek après leur défaite face aux communistes en 1949 est aujourd'hui de plus en plus liée à la Chine, en dépit des tentatives de Taipei de s'échapper d'un terrain jugé trop balisé. Malgré le soutien des États-Unis, la situation est complexe pour Taïwan et de plus en plus d'analystes politiques posent la question de savoir si l'île ne finira pas, tôt ou tard, par retourner dans le giron de Pékin. Regard sur les enjeux du scrutin avec nos invités par téléphone depuis Taipei. Emmanuel Dubois, chercheur invité à l'Institut de Relations Internationales de l'Université Nationale de Sciences Politiques à Taïwan, chercheur associé à l'Institut Thomas More et collaborateur de la lettre Asie 21. Bonjour.
Bonjour.
En studio à Paris, Françoise Mangin, directrice de recherche aux séries Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Et Alice Ekman, chercheur responsable Chine à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et chargée de cours à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Pour comprendre l'enjeu du scrutin, il convient de se pencher peut-être et surtout sur le positionnement des candidats à l'élection présidentielle par rapport à la Chine. Qu'est-ce qui ressort de la campagne? Comment se présente cette élection à 8 jours du scrutin et quels sont finalement les véritables enjeux, Emmanuel Dubois?
Alors la Chine, bien sûr, est un enjeu majeur du scrutin. Donc on a deux candidats qui s'affrontent. Le premier candidat, donc, qui est issu du Kuomintang, donc qui est président du Kuomintang et qui se situe dans la continuité du président Ma Ying-jeou, donc en faveur d'un rapprochement avec la Chine. Bien que du fait de l'impopularité de Ma Ying-jeou, il tente à se démarquer pendant la campagne de son prédécesseur, enfin, à la tête du Kuomintang. Et de l'autre côté, face à lui, donc la présidente du Parti démocrate progressiste, Tsai Ing-wen, qui bien sûr représente une forme de distance par rapport à la Chine, mais qui affirme vouloir maintenir le statu quo dans le rapport avec la Chine. Ce qui, bien sûr, provoque de nombreuses critiques parce qu'on ne sait pas exactement comment elle va pouvoir se situer si la Chine elle-même considère que l'arrivée au pouvoir du Parti démocrate progressiste constitue une rupture par rapport à l'approche qui est amorcée depuis bientôt 10 ans entre les deux rives du Détroit.
Alors, on reviendra effectivement sur ces 10 années et la relation de Taïwan à la Chine. Françoise Mangin, on sent une grande prudence peut-être chez la candidate Madame Tsai du Parti démocratique progressif?
Une double grande prudence, une grande prudence par rapport à l'électorat indépendantiste. Je pense que pour les auditeurs, il est important de préciser, quand on parle d'indépendantisme à Taïwan, ce que ça veut dire. Il y a les indépendantistes purs et durs qui sont pour la proclamation ex abrupto de l'indépendance de Taïwan. Mais la majorité de l'électorat indépendantiste sait très bien que c'est une chose impossible et par conséquent, indépendantisme taïwanais, ça veut dire maintien du statu quo et une relation beaucoup plus maîtrisée avec la Chine. Si Madame Tsai est élue, si elle a une majorité au Parlement, parce que c'est un autre enjeu des élections, nous y reviendrons plus tard, il n'est pas question pour elle de remettre en cause les 23 accords qui ont été signés, mais simplement d'essayer de continuer de négocier avec la Chine de manière plus transparente, ce qui n'a absolument pas été fait pendant les 8 ans de présidence du Kuomintang Ma Ying-jeou.
Plus de transparence. Et finalement, alors quand on parle de maintien du statu quo, Alice Ekman, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire?
Alors, ça veut dire maintien finalement d'une forme de stabilité dans le Détroit. C'est difficile à dire parce que aujourd'hui, Taïwan est dans une situation ambiguë. Il n'y a pas de déclaration d'indépendance et en même temps, il y a un rapprochement économique de facto avec la Chine depuis la signature de l'accord cadre de libre-échange en 2010 sous Ma Ying-jeou. Donc, c'est comment ne pas être trop dépendant de la Chine tout en essayant de restaurer une situation économique, on va dire, plus satisfaisante que jusqu'à présent, parce que ce qu'on note finalement à Taïwan aujourd'hui quand on est dans les meetings, c'est-à-dire que certes la Chine est un enjeu majeur du scrutin en filigrane, mais au cœur des débats politiques, c'est les questions économiques et sociales qui reviennent souvent. dans les meetings, c'est-à-dire les questions salariales, d'accès à l'emploi pour les jeunes diplômés, la question aussi des prix de l'immobilier, des questions voilà qui touchent le quotidien des Taïwanais, mais qui est un enjeu majeur des élections et qui est aussi un sujet pour Tsai Ing-wen qui est extrêmement prudente, comme on vient de le dire, sur la question de la Chine. La politique chinoise du DPP aujourd'hui est vraiment très difficile à cerner, parce qu'en effet, elle est très clivante, elle clive l'électorat dans son ensemble, mais aussi l'électorat DPP. Et donc, Tsai Ing-wen prend très peu de risques, à la fois sur son positionnement vis-à-vis de la Chine, mais aussi dans son expression pendant la campagne. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est largement en avance dans les sondages. Elle sait que, finalement, si elle continue sur cette lancée, elle va gagner les élections. Donc, une prise de parole assez limitée, peu d'engagement ou peu de position claire sur les sujets les plus sensibles. Et aussi, on va dire, une campagne qui est menée conjointement avec une nouvelle force politique qui émerge en Chine, qui émerge depuis le mouvement des tournesols, qui est le New Power Party.
Alors, le mouvement des tournesols, pour nos éditeurs, c'est le mouvement estudiantin qui a pris forme dans le courant de l'année 2014. Je parle évidemment sous votre contrôle, Alice Ekman. Et qui
en mars
2014, et qui avait quoi comme discours?
Ce mouvement s'oppose à plusieurs choses, mais avant tout aux modalités de négociation du volet service de l'accord de cadre de libre-échange qui avait été signé en 2010. C'est à la fois sur le contenu, mais aussi sur les modalités, le manque de transparence autour de ces négociations. Mais suite à ça, il y a eu plusieurs figures, on va dire, charismatiques qui ont émergé, figures étudiantes, mais aussi des professeurs qui sont devenus des cadres d'un nouveau parti, donc qui s'appelle le New Power Party, et qui, aujourd'hui, est soutenu par le DPP, très largement, et qui consolide sa présence sur la scène politique taïwanaise, notamment grâce à la présence de figures très charismatiques telles que Freddy, qui est un chanteur de hard rock, qui se présente dans la campagne aujourd'hui législative, qui est un acteur majeur.
Vous écoutez RFI.
RFI. Géopolitique.
Marie-France Chatin.
Alors, on reviendra évidemment sur les questions économiques et le rapprochement ces 10 dernières années entre Taïwan et la Chine avec des chiffres, somme toute, assez époustouflants. Emmanuel Dubois, il y a eu un sondage récent mené par le Centre d'études sociales de l'Académie des sciences quant à la question de savoir ce que veulent les Taïwanais. Je pense que c'est important de donner quelques chiffres. 46% de Taïwanais qui souhaitent l'indépendance, 37,5% une solution moyenne, c'est-à-dire le statu quo que l'on évoquait à l'instant avec Alice Ekman, 16% l'unification avec la Chine. Et en même temps, quant à l'avenir de Taïwan par rapport à la Chine, 49,7% prédisent que Taïwan sera un jour réunifié, alors involontairement, et 35,9% pensent qu'elle sera indépendante. Il y a une certaine contradiction.
Oui, c'est une contradiction qui a été notée par certains chercheurs entre ce que les gens souhaitent et ce que les gens attendent. Effectivement, il y a une tonalité qui est parfois un peu pessimiste quant à l'avenir de Taïwan, avec beaucoup de gens qui estiment que la Chine finira par parvenir à ses fins, alors que sur le plan des représentations, le sentiment identitaire taïwanais, si on peut l'appeler comme ça, a tendance à se renforcer. Et ce qui, évidemment, complique la donne pour Tsai Ing-wen, parce que Tsai Ing-wen, finalement, est de plus en plus au centre de l'échiquier taïwanais, avec d'un côté, donc, des gens qui seraient favorables à un rapprochement plus prononcé encore avec la Chine, qui pourrait prendre une forme politique, et de l'autre, ces nouvelles formes de militantisme politique donc qui, aujourd'hui, ont tendance à se cristalliser sur le New World Party, qui d'ailleurs s'inspire dans une certaine mesure du mouvement Podemos
en Espagne,
auquel le dirigeant actuel du parti fait souvent référence dans ses interviews, avec une certaine défiance vis-à-vis de la représentation politique, et qui touche aussi le DPP. Et donc, ce sera, je pense, une alliance qui sera délicate pour le DPP, surtout si le DPP ne parvient pas à avoir la majorité absolue au Parlement. Les derniers sondages montraient une certaine montée du New Power Party. Difficile de savoir, évidemment, aujourd'hui, ce qu'il en sera dans 10 jours, hein, d'autant plus que les sondages sont interdits sont interdits de publication jusqu'à ce moment-là. Et donc, la position de Tsai Ing-wen est aujourd'hui difficile parce qu'elle risque d'être d'un côté critiquée par ceux qui souhaitent un rapprochement plus marqué avec la Chine, et ceux qui vont critiquer le rapprochement et qui seront dans son camp, donc qui seront issus du New Power Party.
Françoise Mangin, un commentaire sur ce que vient de dire Emmanuel Dubois?
Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'il faudrait rappeler ce qu'on entend par rapprochement avec la Chine. En fait, toutes les relations entre la Chine et Taïwan avaient été complètement interrompues, interdites, jusqu'au début de la démocratisation, à la fin des années 80, au début des années 90. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une vague de délocalisation très importante de l'industrie taïwanaise en Chine, qui s'est faite sans aucun dialogue entre Pékin et Taipei. Et une fois la vague de délocalisation faite, le Kuomintang est revenu au pouvoir en 2008, et c'était à ce moment-là que le président Ma Ying-jeou a négocié ces 23 accords qui ont été signés en moins de 6-7 ans. On peut s'interroger sur la nécessité de la signature de ces accords, alors même que les entrepreneurs taïwanais avaient pu délocaliser leurs entreprises en Chine, et alors même que les conditions d'investissement en Chine se dégradaient. Donc, quand on parle de rapprochement avec la Chine, il faut bien voir que, et c'est une des raisons probablement de la défaite annoncée du Kuomintang, il est apparu au terme des deux mandats du président sortant Ma Ying-jeou que ces accords n'ont profité qu'aux grands entrepreneurs taïwanais et n'ont absolument pas profité à la majorité de la population et notamment aux classes moyennes.
Alors la population, pour mémoire, c'est 23 millions d'habitants. Ces accords que vous évoquiez, une traduction avec quelques exemples, mais qui sont révélateurs du rapprochement donc entre la Chine et Taïwan, je parle sous votre contrôle bien évidemment, près de 850 vols directs hebdomadaires aujourd'hui entre Taipei et la Chine continentale. Il n'y en avait aucun il y a 10 ans. Et autre chiffre révélateur, la Chine continentale qui absorbe 39% des exportations taïwanaises pour des échanges évalués à 130 milliards de dollars en 2014. C'est dire évidemment, Alice Eckman, si le sort de Taïwan est effectivement considérablement lié à celui de la Chine continentale.
Oui, et à cela s'ajoute également l'essor des échanges touristiques, avec énormément de touristes chinois qui se rendent aujourd'hui à Taïwan, des échanges culturels, des échanges aussi universitaires. Donc, de plus en plus d'échanges entre professeurs, étudiants, différentes institutions d'éducation supérieure à Taïwan et en Chine. Mais c'est vrai que quand on parle de la société taïwanaise, il faut aussi prendre conscience de l'écart de génération qui existe au sein de la population. Parce que émerge, c'est pas récent, mais on le voit de plus en plus, un conflit d'identité nationale et politique au sein de la population taïwanaise, avec une nouvelle génération qui émerge, qui est née à Taïwan. C'est pas forcément le cas de leurs parents. Ils ont exclusivement connu le contexte démocratique, donc cette nouvelle génération. Ils n'hésitent plus à faire part fréquemment de leurs revendications dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et tout simplement, ils se disent, finissent avant tout comme taïwanais. Pas tous, mais une grande majorité de cette génération est nouvelle. Et donc, ils se positionnent différemment vis-à-vis de Pékin.
Alors, différemment, c'est plus ou moins de refus vis-à-vis de Pékin?
En tout cas, il y a un sentiment d'altérité. alors, en général, ça penche vers le refus du rapprochement. En même temps, ils sont pris entre, finalement, deux choix difficiles, parce que les opportunités économiques, de plus en plus aussi, se trouvent sur le territoire chinois, en termes d'emploi, en termes d'études, mais en termes d'identité, si on regarde la manière dont ils se définissent, de plus en plus, donc cette génération se définit avant tout comme taïwanais. Il faut bien se remémorer que c'est pas toujours le cas de leurs parents. On rencontre aujourd'hui de nombreux Taïwanais âgés d'une soixantaine d'années ou plus qui se définissent avant tout comme chinois, même si ils ont vécu la plupart de leur vie jusqu'à présent à Taïwan. Bon, donc on a un changement d'identité nationale et politique, une évolution qui ne joue pas en faveur de la Chine, mais en même temps qui ne se ressent pas forcément dans la prise de décision, en tout cas parce que comme l'élite est encore très très hiérarchisée par l'âge à Taïwan, on a encore dans l'élite politique, économique, universitaire à Taïwan, de nombreuses personnes influentes qui sont nées en Chine, qui se considèrent comme chinois et qui ne sont pas forcément pour un rapprochement direct avec la Chine, mais qui ont finalement un lien personnel avec la Chine qui est réel. Par contre, ce qui a noté aujourd'hui, si on veut revenir sur l'élection, la campagne qui nous occupe aujourd'hui, c'est vraiment le cas de Tsai Ing-wen, qui elle n'a pas de lien personnel direct avec la Chine. Elle se sent pas finalement personnellement concernée par ce, elle n'a pas de famille famille sur le territoire chinois. Et c'est des éléments à prendre en compte quand même dans la formulation de sa politique chinoise, même si elle est ambiguë aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est différent, qui est avant tout taïwanais aujourd'hui.
Emmanuel Dubois, vous souhaitez réagir, et après ça j'aimerais peut-être que l'on parle de la rencontre en novembre dernier à Singapour des présidents chinois et taïwanais, un sommet somme toute inédit et une rencontre qui n'était évidemment pas le fruit du hasard. Emmanuel Dubois.
Oui, justement pour faire la transition avec la position de la Chine peut-être, il faut noter que sur cette question de l'identité taïwanaise, un des facteurs de durcissement de la position chinoise, même si c'est difficile aujourd'hui de savoir quelle sera la position chinoise, mais en juin 2014, donc après le mouvement des tournesols, Tsai Ing-wen avait donné une interview à un magazine taïwanais où elle avait affirmé que du point de vue de la jeunesse taïwanaise, il y avait une sorte d'évidence dans l'indépendance de Taïwan, que ce n'était pas quelque chose d'une certaine façon qui était contre la Chine, mais qui s'imposait, puisque, comme l'expliquait Alice Ekman, finalement, ils n'avaient jamais connu autre chose que Taïwan, ni autre chose que la démocratie. Et c'est à la suite de cette déclaration que la Chine avait organisé, Xi Jinping avait organisé une réunion avec la partie la plus unioniste, disons, de la scène politique taïwanaise, et qui avait mentionné à propos de Taïwan, il avait utilisé la formule un pays de système, qui avait beaucoup inquiété à Taïwan. Donc il faut voir que ces questions-là risquent d'être très très délicates à traiter pour Tsai Ing-wen, mais aussi pour la Chine, qui d'une certaine façon se trouve aujourd'hui prise dans un dilemme délicat à régler, puisque d'un côté elle souhaite montrer depuis de nombreuses années sa bonne volonté à l'égard de Taïwan, et d'un autre côté sa propre législation, la loi anti-sécession qu'elle a adoptée en 2005, lui impose d'une certaine façon de réagir si Taïwan traîne trop les pieds pour entrer dans les négociations politiques. Donc du point de vue de la Chine elle-même, disons qu'on vous disiez dans votre présentation que Taïwan était dans une situation délicate, coincée, mais il me semble que la Chine est elle aussi dans une situation très délicate quant à Taïwan, puisque elle est à la fois amenée à montrer de la bonne volonté et à punir, ce qui rend sa politique à l'égard de Taïwan peu lisible.
Alors, Françoise Mongin, vous soulignez tout à l'heure, il nous reste 1 minute 30 pour terminer cette première partie d'émission, le manque de transparence dans la relation entre la Chine et Taïwan. Qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on peut dire rapidement, et on poursuivra dans la deuxième partie, de la philosophie du président chinois Xi Jinping vis-à-vis de Taïwan?
Elle s'inscrit dans la très grande continuité de la politique taïwanaise de tous les dirigeants chinois, c'est-à-dire un refus absolu de considérer que Taïwan soit un État. Alors, la politique chinoise, la politique taïwanaise de la Chine a évolué, c'est-à-dire que elle passe davantage par des négociations avec Taïwan. Elle passe par des négociations de parti à parti, parti communiste chinois, Kuomintang, mais sans exclure de recourir à la force. Et comme l'a rappelé Emmanuel Dubois, la loi anti-sécession qui a été adoptée en 2005 légalise le recours à la force si des négociations politiques ne sont pas ouvertes. Alors, je pense que Xi Jinping va être très prudent, c'est-à-dire que il sait que les États-Unis apporteront un soutien à Taïwan, non pas si Taïwan déclare son indépendance, pas du tout, mais si Pékin cherche à reprendre par la force, par les armes, Taïwan. Donc, une des éventualités, si Tsai Ing-wen est élu, ce serait d'étouffer encore plus Taïwan sur la scène internationale, c'est-à-dire de contraindre les 22 alliés diplomatiques que Taïwan conserve, qui n'ont aucun poids sur la scène internationale, de rompre leurs relations avec Taïwan.
Alors,
ça n'aurait pas beaucoup de conséquences.
Oui, on poursuivra, Françoise Mongin, ce que vous venez d'évoquer à l'instant, étouffer davantage Taïwan. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Emmanuel Dubois, Françoise Mongin et Alice Ekman, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, quel avenir pour Taïwan? Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Taipei. Emmanuel Dubois, chercheur invité à l'Institut de Relations Internationales de l'Université Nationale de Sciences Politiques à Taïwan, chercheur associé à l'Institut Thomas More et collaborateur de la lettre Asie 21. Françoise Mangin, directrice de recherche aux séries Sciences Po. Et Alice Ekman, chercheur responsable Chine à l'IFRI, l'Institut Français des Relations Internationales, et chargé de cours à Sciences Po. Nous évoquions dans la première partie de l'émission cette rencontre qui a eu lieu en novembre dernier, donc à quelques mois, quelques semaines de l'élection présidentielle du 16 janvier prochain, donc dans 8 jours, rencontre entre les présidents chinois et taïwanais, une rencontre qui s'est faite à Singapour, un sommet assez inédit, une rencontre qui n'était évidemment pas le fruit du hasard. Françoise Mangin, c'était une façon pour Pékin sans doute d'apporter son appui au président sortant et à son parti.
Oui, c'était l'objectif voulu de cette rencontre, rencontre qui a été qualifiée d'historique. La poignée de main entre les deux présidents sera un cliché qui restera dans les livres d'histoire, mais c'est très paradoxal parce que cette rencontre a été négociée de manière complètement opaque, y compris des hiérarques haut placés du Kuomintang. La veille de l'annonce de la rencontre, elle a été annoncée 4 jours, la rencontre a eu lieu le 7 novembre, un samedi, elle a été annoncée dans la nuit du mardi au mercredi. Personne à Taipei, hormis moins d'une dizaine de personnes, n'était au courant. Personne dans le gouvernement, personne dans le parti politique. Ce qui, dans un contexte démocratique qui est celui de Taïwan, est totalement anormal. C'était une rencontre qui ne scellait aucune négociation. C'était une rencontre qui n'engageait aucune nouvelle négociation. Et c'était une rencontre entre un président qui a été démocratiquement élu, le président Ma Ying-jeou, mais qui n'avait aucune légitimité à ce moment-là pour aller rencontrer son homologue chinois, puisque il ne peut pas se représenter aux élections. Il a fait 2 mandats. Il est donc en charge d'une administration qui gère les affaires courantes dans l'attente du scrutin du 16 janvier. C'est un président dont la cote de popularité est au plus bas, qui a été complètement désavoué aux élections locales de novembre 2014 et qui a même dû, à ce titre, démissionner de la présidence de son parti. C'est une rencontre, en plus, qui a été organisée dans un territoire tiers, effectivement, à Singapour, mais à l'occasion d'une visite d'État du président chinois pour fêter l'anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre Singapour et la Chine. Ce qui, symboliquement, quand même, était très malvenu pour la partie taïwanaise, qui soulignait à quel point Taïwan est isolé. Alors, que le président Ma Ying-jeou ait accepté de se brancher sur cette visite d'État du président Xi Jinping à Singapour ne pouvait que souligner aux yeux des Taïwanais à quel point leur pays est isolé diplomatiquement. Et ça a été très très contre-productif dans l'opinion publique taïwanaise, y compris dans l'électorat Kuomintang, chez les intellectuels, chez les universitaires, qui n'ont absolument pas compris cette rencontre. Et en plus, Ma Ying-jeou a fait une performance qui n'était pas brillante face à Xi Jinping.
Alors, l'isolement de Taïwan, j'aimerais que vous souhaitiez réagir, Alice Ekman, à ce que vient de dire Françoise Mangin. Après ça, on parlera de l'isolement de Taïwan.
Oui, sur la rencontre entre Xi et Ma, c'est vrai qu'elle a été perçue négativement par une partie de la population taïwanaise, mais j'ai également entendu des échos positifs d'une partie de l'électorat Kuomintang qui appréciait on va dire la couverture médiatique internationale dont bénéficiait Taïwan à ce moment-là, qui est quand même pas fréquente, c'est une réalité. Ils apprécient aussi le fait, finalement, que Ma Ying-jeou apparaisse dans les médias comme un président d'un État, même si Xi Jinping et Ma Ying-jeou s'appelaient monsieur.
Et non pas président, hein, on est d'accord.
Voilà, et donc la négociation portait aussi sur le titre, comment chacun s'appelait, et aussi le fait que Ma Ying-jeou ait mentionné le problème de l'isolement international de Taïwan, du manque de reconnaissance et de participation dans l'institution internationale, où on s'était des éléments de discours qui ont été appréciés par une partie de l'électorat Kuomintang. Et je suis bien sûr consciente, on le voit sur le terrain, qu'il y a aussi énormément de réactions négatives face à cette visite, notamment dans l'électorat DPP. Donc on voit bien finalement qu'il y a quand même de nombreux points de clivage au sein de l'électorat taïwanais. Et cette rencontre aussi nous amène à l'autre question qui suivra les élections et que Françoise Moingin avait abordée juste auparavant et sur laquelle j'aimerais revenir, ce serait sur la réaction de Pékin.
Les conséquences régionales voilà. de Pékin de l'élection. Alors, je vous propose qu'on on l'aborde un tout petit peu plus tard. Mm-hmm. L'isolement de Taïwan qu'évoquait Françoise Moingin, et je me tourne vers vous, Emmanuel Dubois. Juste pour mémoire, donc Taïwan, territoire de facto indépendant depuis la fin de la guerre civile et la fondation de la Chine populaire en 1949, mais l'île n'est pas reconnue par les Nations Unies à l'instar de la quasi-totalité des pays du monde. Seules 22 chancelleries lui sont restées fidèles, dont le Vatican. Illustration de cet isolement de Taïwan, Taipei n'était pas invité à la conférence sur le climat à Paris, la COP21. Alors, isolement d'un côté, ce qui n'empêche Taïwan d'avoir des alliés. Je crois que c'est l'occasion de parler des États-Unis et du Japon. Bref, en tout cas, une situation assez complexe, Emmanuel Dubois.
Oui, c'est une situation qui est très paradoxale et qui, en fait, est avant tout due, bien sûr, à la politique de la Chine unique, disons de la Chine elle-même, mais qui a réussi à s'imposer donc sur la scène internationale, notamment depuis la visite de Richard Nixon et de Henry Kissinger en 1971 et 72 en Chine. Donc c'est quelque chose d'assez paradoxal, puisque au nom d'un réalisme politique, on admet l'idée qu'il y a une seule Chine, mais au nom du réalisme, on nie la réalité. Donc c'est une situation qui est un petit peu étrange. Mais de fait, même si formellement, du point de vue strictement diplomatique, Taïwan n'est reconnu par personne, il faut savoir que les grands pays ont tous, ici à Taipei, un bureau de représentation à qui il manque seulement le nom d'ambassade, mais qui a toutes les fonctions d'une ambassade. Et donc, comme vous le disiez, effectivement, les États-Unis sont un allié très important de Taïwan. Le président Obama vient de s'engager, peu avant les élections, à fournir des armes à Taïwan, donc, ce qu'il n'avait pas fait depuis quelques années et ce qui inquiétait quelques personnes ici. Il faut savoir que Tsai Ing-wen, durant sa campagne électorale, s'est rendue au Japon. Elle a pu, au Japon, rencontrer des officiels, ce qui est, je crois, inédit. Elle a peut-être même rencontré le Premier ministre Abe Shinzo à Tokyo. En tout cas, elle s'est longuement entretenue avec son frère, qui est député. Elle a d'excellentes relations avec le Japon. Le Japon lui-même, quand on parle avec des officiels ou des journalistes ici, laisse entendre qu'une victoire du DPP ne serait pas pour leur déplaire. Donc certes, Taïwan est isolé sur la scène internationale, mais sur un plan plus pragmatique, les liens avec les États-Unis et avec le Japon n'ont jamais été aussi bons face à la Chine qui inquiète de plus en plus ses voisins.
Vous écoutez RFI.
RFI. Géopolitique.
Alors, le contrat de vente d'armes qu'évoquait Emmanuel Dubois, c'était un contrat donc annoncé par Barack Obama à la fin de l'année dernière, fin 2015, pour un montant somme toute assez important, près de 2 milliards de dollars d'armes à Taïwan. Françoise Moingin, qu'est-ce que l'on peut dire de la politique aujourd'hui de Washington vis-à-vis de Taïwan ?
La politique de Washington, c'est d'essayer de maintenir le statu quo, c'est-à-dire de maintenir l'indépendance de fait dont jouit Taïwan, d'empêcher une réunification par la force de Taïwan à la Chine et donc de livrer des armes purement défensives à Taïwan.
Purement défensive, c'est important de le souligner. La question qui vient après est presque dans quelle mesure Taïwan est aujourd'hui encore le prétexte qui pourrait conduire les deux puissances, Chine et États-Unis, à la guerre d'une certaine manière, à l'Isegman.
Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que Taïwan est un point de cristallisation de la rivalité Chine-États-Unis qui existe depuis longtemps, mais qui est actuellement en train de se renforcer. Donc, c'est à quel point cette compétition, cette rivalité renforcée, pourrait finalement avoir des conséquences sur Taïwan qui ne sont pas forcément directement liées à l'évolution de la situation en Taïwan, même si probablement les tensions se renforceront avec le retour du DPP au pouvoir. Mais surtout, comment la Chine ou les États-Unis, mais je pense surtout à la Chine de Xi Jinping, va percevoir Taïwan, vaincre Taïwan, dans le cadre de cette rivalité renforcée. Parce qu'aujourd'hui, Xi Jinping parle de renouveau de la nation chinoise, il parle aussi d'établissement de nouveaux types de relations entre grandes puissances, sous-entendu en premier lieu entre la Chine et les États-Unis. Il souhaite que Pékin soit considéré au même niveau que Washington, et en premier lieu par Washington, mais aussi par les autres pays. On voit aujourd'hui, on note ces trois dernières années un renforcement de la compétition économique à travers les accords de libre-échange institutionnels avec la volonté de Xi Jinping de renforcer la présence chinoise dans les institutions existantes mais aussi d'en créer de nouvelles comme l'AIIB par exemple, la Banque d'investissement, asiatique d'investissement pour les infrastructures.
De laquelle Taïwan est exclue.
Alors, on verra, parce que Taïwan se pose la question de rejoindre l'AIIB. Mais de facto, la Chine n'a pas pensé à Taïwan comme premier membre fondateur pour rejoindre, en tout cas pas en tant qu'État taïwanais à part entière. Donc, on voit bien aussi que la situation est très ambiguë à ce niveau-là, puisque la représentativité de Taïwan dans les institutions régionales et internationales se pose alors que la Chine renforce son leadership sur ces institutions. Donc la question, on va dire, les obstacles pour Taïwan vont rester, voire vont se renforcer. Donc on a une compétition à plusieurs niveaux, et aussi une compétition militaire, puisque la Chine cherche à rattraper ce qu'on appelle un rattrapage asymétrique sur le plan militaire vis-à-vis des États-Unis. Et alors la place de Taïwan dans cette compétition, c'est un point d'interrogation, mais à mon avis qui est à prendre en compte dans les prochaines années. Xi Jinping avait déclaré peu après son investiture que on ne pouvait pas remettre la question taïwanaise aux générations suivantes indéfiniment. Alors il y avait un débat qui avait émergé suite à cette déclaration en disant qu'est-ce qu'il veut dire par là, à quel point est-il impatient.
En tout cas, on y voit bien son souhait d'être l'homme qui va régler la question taïwanaise.
Ce qui est sûr, c'est
que
c'est lui qui supervise les questions, la question taïwanaise en Chine. Il a consolidé son pouvoir et il est omniprésent dans les décisions de politique intérieure et extérieure. Et c'est un homme fort, on le voit clairement. Donc, comment il va gérer la question taïwanaise dans les prochaines années, il est normalement en poste jusqu'à 2022, si ce n'est plus. Tout dépendra vraiment de la vision individuelle même que Xi Jinping a du détroit de Taïwan.
Françoise Mangin, vous souhaitez...
Oui, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur cette question de l'isolement diplomatique de Taïwan. Taïwan est extrêmement intégré dans les échanges internationaux. Donc, cet isolement est un isolement sur le plan de la reconnaissance véritablement de l'État. Donc, ce sont des questions de nomenclature. Taïwan pourrait participer à toutes les organisations internationales si ses dirigeants et donc sa population acceptaient que ce soit sous le nom d'une province chinoise ou sous le nom d'une région administrative spéciale de la Chine, statut qui lui est promis par la Chine populaire, statut qui est celui de Hong Kong aujourd'hui. Et c'est ça, c'est ce qui s'appelle l'étouffement diplomatique de Taïwan. Je ne donnerai qu'un seul exemple, mais qui est à mon avis tout à fait symptomatique. Suite à la crise Ebola en Afrique, Taïwan a voulu faire un don de 1 million de dollars à l'OMS, don qui a été refusé, parce que Taïwan n'est pas un État reconnu. Je pourrais en donner énormément.
Mais alors, ce que j'entends de ce que vous venez de dire, Françoise Mangin, et vous me corrigez si je me suis trompée, c'est que finalement cet isolement diplomatique de Taïwan, c'est presque aux autorités de Taïwan qu'incombe la responsabilité avec ce refus d'accepter d'être nommé différemment.
C'est le refus de ratifier la souveraineté de la Chine populaire sur Taïwan. Peut-être est-il important pour les auditeurs d'insister sur la spécificité de cette partition de la Chine. Il n'y a jamais eu coexistence de deux Chines ou de une Chine et Taïwan sur la scène internationale, à l'exemple de l'Allemagne avant la chute du mur ou des deux Corées aujourd'hui. Il y a toujours eu substitution de l'une à l'autre. Fiction dans un premier temps de reconnaître le gouvernement nationaliste replié à Taïwan comme souverain sur l'ensemble de la Chine, y compris à l'ONU jusqu'en 1971, et fiction ensuite de reconnaître la Chine populaire comme souveraine sur le continent et l'île de Taïwan.
Alors, pour le temps qui nous reste pour terminer cette émission, Emmanuel Dubois, on l'évoquait tout à l'heure avec Alice Ekman et j'ai proposé qu'on reporte un petit peu cette question pour la fin. La voici, qu'est-ce que l'on peut dire des conséquences régionales qu'aurait une victoire de Madame Tsai du Parti démocratique progressif à Taïwan à l'occasion des élections présidentielles du 16 janvier prochain?
Alors, ce qui est certain, c'est que Madame Taïwan n'a fait aucun mystère de sa volonté de renforcer ses relations avec ses voisins de l'ASEAN notamment. comme je le disais un petit peu tout à l'heure, je pense que les relations avec le Japon seront meilleures que ce qu'elles ont été sous Ma Ying-jeou, même si elles n'ont pas été mauvaises sous Ma Ying-jeou, malgré le tropisme quelque peu anti-japonais du président là, puisque en 2013, un accord de pêche avait été signé entre les deux pays à la grande satisfaction de Taïwan, et au grand mécontentement de la Chine d'ailleurs. On peut penser que les relations entre les États-Unis et Taïwan ne seront pas affectées par l'élection, puisque cette fois-ci, contrairement à ce qui s'était passé en 2012, les États-Unis ont pris soin de ne manifester aucune préférence quant aux deux principaux candidats qui se présentaient à l'élection présidentielle, et ont offert aux deux candidats qui sont rendus à Washington la même réception paradiplomatique, si on peut appeler ça comme ça. Donc on peut s'attendre à une volonté de rééquilibrage, disons, de la diplomatie taïwanaise qui existe malgré tout vers les pays de l'ASEAN, mais la grande question reste quand même de savoir quelle sera l'attitude de la Chine à la suite de l'élection de Mme Tsai, qui reste très probable. Alors il faut savoir qu'il y a un délai en fait qui est assez long entre le moment de l'élection et la prise de fonction de Mme Tsai, puisqu'elle sa prise de fonction officielle sera le 20 mai, et d'ici là il sera possible d'observer lors de différentes échéances l'attitude chinoise à l'égard de cette élection. Mais la question cruciale, disons, ce sera sans doute le discours inaugural de Mme Tsai Ing-wen le 20 mai prochain. Quelle sera sa politique chinoise, puisqu'elle est restée volontairement très ambiguë sur cette politique jusqu'à présent.
Françoise Mangin.
Oui, un enjeu du scrutin dont on a peu parlé, ce sont les élections législatives qui se tiennent le même jour, le 16 janvier prochain. Si, comme l'indiquent les sondages, mais il faut être très prudent, car d'autant plus que les instituts de sondage taïwanais ne sont pas bons, et comme partout ailleurs, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Mais si Madame Tsai Ing-wen est élue, le scrutin du 16 janvier sera un tournant historique, véritablement historique dans la trajectoire de l'île, si également le Parlement est contrôlé par son parti. Soit que son parti, le DPP, ait une majorité absolue, soit qu'il puisse être allié notamment au New Power Party et à des candidats indépendants, et en tout cas que le Parlement ne soit plus dominé, ce qui serait la première fois depuis 1949 que le Parlement ne soit plus dominé par le Kuomintang. Car ça ne sera... Si Mme Tsai est élue, ce sera la première fois qu'une femme est élue, mais ça ne sera pas la première fois qu'il y a un président DPP à Taïwan. Mais pendant les 8 ans où Chen Shui-bian a été président de 2000 à 2008, il n'a jamais eu de majorité au Parlement, ce qui a expliqué tout le blocage pendant ces années-là.
Donc, si Mme Tsai emporte la présidence et que le Parlement taïwanais a pour majorité le parti démocratique progressif, Alice Ekman, augmentation de la tension en vue entre Taïwan et Pékin assurée pour 2016.
Oui, mais à mon avis, augmentation relative de la tension pour plusieurs raisons. Premièrement, la politique du DPP vis-à-vis de la Chine sera probablement différente, même si elle est aujourd'hui ambiguë, elle sera probablement différente de celle que le DPP a défendue auparavant. Tout simplement aussi pour une question de personnalité. Tsai Ing-wen n'a pas la même personnalité que Chen Shui-bian, qui était auparavant président issu du parti DPP. Elle est peut-être plus modérée ou peut-être plus froide dans sa communication, sans porter de jugement de valeur, mais à mon avis, elle sera en tout cas plus prudente dans sa relation vis-à-vis de la Chine. Deuxième chose, la Chine, au cours des 8 dernières années, a investi massivement dans les liens informels avec l'élite politique taïwanaise, du Kuomintang, mais aussi du DPP. Donc des canaux de communication existent, même s'ils ne sont pas mis en valeur ni par la Chine, ni par les membres du DPP. Et troisième point, la Chine elle-même, même si elle est aujourd'hui dirigée par un président fort qui a une vision claire de réunification à long terme de Taïwan, la Chine doit faire face à de très nombreuses crises sur son territoire et dans la région. Et donc elle a du pain sur la planche, donc il est possible que dans cette longue liste de crises, on parle de Hong Kong, on parle du Xinjiang, on parle du Tibet, on parle de tension territoriale en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale, on parle les tensions environnementales, etc., etc. La liste est longue. Il est probable que Taïwan n'arrive pas en premier dans la hiérarchie des crises à gérer.
En tout cas, un dossier à suivre. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Par téléphone depuis Taipei, Emmanuel Dubois, qui est chercheur invité à l'Institut de Relations Internationales de l'Université Nationale de Sciences Politiques à Taïwan et chercheur associé à l'Institut Thomas More, collaborateur de la lettre Asie 21. Françoise Mangin, directrice de recherche aux séries Sciences Po, et Alice Ekman, chercheur responsable Chine à l'IFRI et chargée de cours à Sciences Po. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand, Clara Wright et Victor Hull. À samedi prochain.